Mon nom est Bernard Stewart et je suis employé dans le bâtiment d'histoire.
Croyant la stigma, monsieur Stewart.
Emmenez-le.
Il ne faut que mentionner la stigma.
Elle est l'espoir.
La stigma n'a rien de concret, contrairement à leur meurtre. Les suspects sont situés dans le chalet.
Qu'est-ce que la stigma? Oh,
employé 6047.
Comment le dossier a-t-il pu passer les
rangs? Emmenez tout le monde.
Que fout l'armée?
J'ai reçu d'autres ordres.
Ouais. Maintenant tu vas payer toutes ces personnes.
J'ai créé
non.
Le
mais...
C'était votre ami.
Tirez!
Au revoir, Stewart.
Jamais!
Stigma, le making of.
Bonjour à tous, je suis Destrocorn, le créateur de la saga Stigma, et ce petit bonus est consacré à vous dévoiler l'envers du décor de la saga.
Le matériel.
Pour enregistrer la saga, je me suis servi donc d'un dictaphone Olympus dont la référence est WS-6505. Ce dictaphone était relié à un micro Cornet, micro Philips SBC MD150. Je suis bien sûr muni de filtre anti-pop, ainsi que d'un pied de micro pour enregistrer correctement, et toute la saga a été montée, mixée sur Audacity 1.3.
La saga.
Donc, la saga en elle-même, c'est une saga que j'ai toujours eu envie de faire, parce que ça me faisait changer de style. J'avais envie d'essayer le style sérieux, et jusqu'à présent, j'avais fait que du fantaisiste et de l'humour. Donc c'est une saga que j'avais vraiment envie de faire, une saga dans le style sérieux, sauf que j'avais pas encore assez d'expérience pour la faire, et j'avais envie de la réaliser dans le cadre du concours de la saga de l'été. Et les règles de ce concours stipulent que nous n'avons pas le droit d'écrire la moindre chose sur la saga avant le 1er juin. J'ai donc eu l'occasion de laisser mûrir la saga dans ma tête, en quelque sorte. J'ai eu le temps de pas mal réfléchir sur la saga. Et donc du coup, exploiter au maximum le scénario qu'on aurait pu avoir. Alors effectivement, on peut comparer la saga avec beaucoup d'autres œuvres, et je ne citerai qu'un seul exemple, 1984 de George Orwell, qui est une des œuvres avec lesquelles on m'a comparé.
La stigma.
Bon, alors nous arrivons dans la partie spoil du making of. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté la saga, arrêtez ce bonus ici. Pour les autres, continuez. Je vous parle de la stigma. La stigma n'existe pas. Oui. Faut dire que la stigma, elle est passée par beaucoup de phases. Au début, quand j'ai pensé à écrire la saga, la stigma était quelque chose qui était matériel. C'est-à-dire, elle avait un corps, on pouvait la toucher, on pouvait la voir, et c'était censé être un objet ou quelqu'un qui représentait la liberté et l'envie de vivre. J'avais pensé à divers objets, par exemple une moto qui roulerait jusqu'à l'horizon et qui représenterait bien la liberté et l'espace, tout ce qui pourrait donner envie aux gens de se révolter. Et puis au fur et à mesure que je réfléchissais à la saga, je me suis dit que finalement le fait que ça soit quelque chose de concret, c'est trop banal, et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc quand j'ai commencé à écrire la saga au propre à partir du 1er juin, je n'avais aucune idée de ce qu'allait être la stigma. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'écrivais le scénario, je n'avais aucune idée de ce que ça allait être. Et moi aussi, je recherchais ce qu'était la stigma. Et petit à petit, plus j'écrivais la saga, plus je me disais qu'en fait, le message à porter dans cette saga, ça serait la puissance des mots. C'est-à-dire que stigma n'est qu'un mot, et c'est ce qui provoque une révolution, c'est ce qui redonne l'envie de vivre, ce qui redonne l'espoir. Mais ce n'est qu'un mot, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait pas. Et donc l'idée, c'était de montrer que les mots sont extrêmement puissants, quel que soit le contexte. Et la preuve en est, par exemple, des élections présidentielles d'aujourd'hui. Les présidents ne sont plus jugés par leurs actes, mais par leurs discours. Et c'est un exemple de la puissance des mots. Donc c'était un petit peu le message qui était recherché dans la saga, et j'espère être arrivé à démontrer ça.
Les personnages.
Donc on va commencer ce petit descriptif des personnages avec le héros de l'histoire, Bernard Stewart. C'est là qu'on va attaquer aussi les points communs avec d'autres œuvres dystopiques et différentes inspirations pour la saga. Bernard Stewart ressemble énormément à Winston Smith de 1984 de George Orwell. Bah, c'est vrai, ils travaillent tous les deux dans le bâtiment de l'histoire, retouchent tous les deux des articles, et sont tous deux des victimes. Là où il y a une grosse différence, je pense, entre les deux personnages, c'est que Stewart ira plus loin que Winston Smith. Donc, c'est-à-dire que Smith va se laisser mourir à la fin du livre, désolé je vous spoil 1984, tandis que Stewart va se battre pour cette liberté et pour tous les gens qui veulent être libres. Il va se battre jusqu'au bout pour obtenir son but, le quelque chose qu'il désire, sa liberté. À part ça, J'avais envie de faire un personnage pas charismatique du tout. Stewie n'est pas charismatique. C'est une personne banale qui est faible, qui se laisse trimballer de haut en bas jusqu'à la fin de la saga et qui finalement aura cette volonté seulement au dernier moment. Et encore, ce n'est pas lui qui agit de sa propre volonté, c'est l'influence des événements autour de lui. Passons à l'agent Clemson. L'agent Clemson, c'est le méchant de l'histoire. C'est-à-dire que quand je l'ai créé, je me suis dit, bon, je vais faire un méchant qui soit cruel, mais vraiment cruel, et qui, dès qu'on écoutera ce qu'il fait, ou quand il parle, on se dira, putain, mais quel enfoiré celui-là. Le but, c'était vraiment de faire un vrai méchant, un salopard. Donc, si je devais le comparer avec un personnage fictif d'une autre œuvre, je pourrais le comparer avec Quiddy de V for Vendetta, de V pour Vendetta en français, c'est mieux, qui s'occupe de garder la milice. Ici, Clemson est juste un agent de terrain qui a certaines responsabilités, mais qui fait tout son possible et qui torture le plus de gens possible pour arriver à ses fins. Et j'avais vraiment envie que ça soit un méchant charismatique. Je pense être arrivé au bout, et puis je remercie encore Sekras qui, je trouve, l'a super bien joué. Pierre Gardy est l'élément déclencheur de la saga. C'est avec lui que commence la première apparition en quelque sorte de la Stegma. C'est-à-dire que c'est lui qui lance le sujet. Et c'est surtout le créateur du MNU et de la Stegma. C'est-à-dire que Gardy va tout faire pour détruire le MNU grâce à la Stegma, alors qu'il sait pertinemment qu'elle n'existe pas. Donc c'est lui en quelque sorte qui tire les ficelles de l'intrigue. C'est lui qui va faire que Stewie hérite de documents sur la Stegma, que certains événements arrivent, de façon à ce que Stewie soit de plus en plus motivé à pousser à la révolution, de façon à ce qu'il ait la volonté nécessaire pour lancer son dossier sur la Stegma. Et il va donc devoir sacrifier des vies, donc à savoir la sienne, celle de Jérémy Fonquin. Il va même faire exécuter d'autres personnages secondaires et figurants pour pousser Stewie à la révolution. Et la raison qui motive Gardy à commettre ces actes est qu'il n'a qu'une envie, c'est de détruire son œuvre, le MNU, qui n'est plus du tout la chose qu'il avait créée. C'est-à-dire que, en gros, si on devait résumer, le MNU est devenu sa création, son rêve, est devenu maintenant son cauchemar. Et c'est la raison pour laquelle Gardy, d'ailleurs, sacrifiera sa vie à la fin, c'est pour mettre un terme à ce cauchemar. Passons à Alfred. Alfred, c'est un personnage qui n'était pas présent lors de la version provisoire de la saga. C'est-à-dire, quand je pensais à la saga, je ne pensais pas du tout mettre une unité intelligente. Le principe d'avoir mis ça, c'était de faire croire que le héros discute à un homme. Et c'est ce qui était recherché. Sauf qu'au final, on se rend bien compte que ce n'est pas un homme, c'est un robot. D'ailleurs, il n'y a aucune émotion qui passe par Alfred. Finalement, si je devais le comparer, ça serait avec Hal de 2001 l'Odyssée de l'espace, mais seulement avant que Hal devienne humain. Enfin, seulement avant que Hal ait des réactions humaines. Car Alfred, jusqu'ici, n'aura pas de réaction humaine, il n'aura pas de propre volonté, il agit obéit bêtement aux ordres du MNU. On va passer maintenant aux personnages secondaires et entamer donc avec les membres du parti qui sont présents dans la saga, à savoir l'Inquisiteur Vercune et Samuel Vigna, la Voix du Peuple. Samuel Vigna est inspiré de Protero, qui est la Voix du Peuple dans V pour Vendetta. C'est-à-dire, quand j'ai écrit le scénario, Vigna n'apparaissait pas dans la vision que j'en avais avant d'écrire le scénario. Je l'ai écrit comme ça d'un coup sur le texte, je me suis dit, tiens, je vais faire apparaître un mec là. Et quand je l'ai écrit, je voyais Protero de V pour Vendetta parler. C'est-à-dire que c'était lui, c'était la voix du peuple. Son but, c'est de convaincre les gens, de les manipuler par les mots pour en faire ce qu'il veut. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce personnage. C'est-à-dire que les rares apparitions qu'il fait montrent qu'il est là pour manipuler, qu'il est là pour faire des discours, pour motiver les gens à croire encore en lui. Alors, quant à l'Inquisiteur Vircune, c'est un personnage dont je n'arrive pas à trouver d'autres personnages fictifs pour le comparer sur le moment. Donc, si je devais résumer un peu ce qu'est Vircune, c'est un vieil homme bourré d'ambition. qui a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire faire du MNU un parti unique qui contrôle le monde. Et donc on pourrait se dire que c'est véritablement le salaud de l'histoire, sauf qu'on ne le voit pas assez pour qu'il le soit réellement. Mais c'est un peu le genre. Jonathan Winston est un personnage qui est grandement inspiré du personnage de Sim dans 1984. Et la preuve, c'est que Sim et Smith, dans 1984, ont exactement la même relation que Stewie et Winston dans Stigma. C'est-à-dire que les deux se connaissent bien, ils peuvent se considérer entre amis, alors qu'ils ne le sont pas du tout, et Jonathan Winston est passionné par le parti, tout comme les Sim. En fait, ce qui différencie réellement Winston et Sim des deux créations, c'est que Winston a plus confiance en Bernard Stewie que Sim n'a confiance en Winston Smith. Et la preuve, c'est que Sim n'hésiterait pas une seule seconde à dénoncer Smith, tandis que Jonathan Winston suit Bernard Stewie dans le restaurant, dans la saga, où il trouvera la mort. Rien que ça, c'est une preuve qu'il y a un lien un peu plus fort entre Winston et Stewie qu'il y en a entre les deux personnages de 1984. Quant au caractère, Smith et Jonathan Winston ont exactement le même caractère, donc on peut dire effectivement qu'il s'agit quasiment du même personnage. J'en arrive au dernier personnage secondaire que je vais exploiter dans cette saga. Donc Jérémy Fonquin, c'est le dernier personnage secondaire que je vais aborder dans la saga. C'est un personnage clé de la saga, car malgré le peu de temps qu'il est là, malgré le peu de temps où il est présent dans la saga, c'est lui qui va faire que les événements se déclenchent. C'est-à-dire que Fonquin travaille sur un dossier sur le stigma, et il va être arrêté à cause de ça dans l'épisode 1, ce qui va faire que Stewie va hériter de ce dossier. Et la seule fois après où on revoit Jérémy Fonquin, c'est dans l'épisode 5, et c'est pour son exécution, donc exécution commanditée par l'agent Clunson, qui va faire un exemple pour que Stewie ne fasse pas la même erreur, et son exécution va pousser Stewie à mettre son dossier en ligne et à faire en sorte que la stigma provoque la révolution par les quelques mots qui sont inscrits dans son dossier. Donc, Jérémy Fonquin est un personnage clé de la saga, malgré sa faible apparition.
Les remerciements.
Donc voilà, nous en sommes à la phase des remerciements. Donc je remercie tous les acteurs qui ont participé à la saga. Je ne vais pas les renommer encore parce qu'ils sont déjà présents dans le générique de fin. Je remercie tous les organisateurs du concours de la saga de l'été, car c'est vraiment très bien de participer à ce petit concours et c'est très amusant. Et il y a vraiment beaucoup de travail auprès de ce concours. Donc merci à eux. Et bien évidemment, je vous remercie, vous, chers auditeurs, qui m'avez donné envie de continuer à faire cette saga, qui m'avez encouragé et qui avez pris la peine d'écouter la saga ainsi que ce petit bonus, j'ose espérer. Et sur ce, je vous dis à bientôt et ciao. Salut !